Radio J. Radio J. Le 10-11.
Radio J.
Lise Gutmann.
Radio J, la chronique pour la paix. Paul Uzi Meyerson, bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour, bonjour Lise, bonjour les auditeurs.
Alors, ce matin, nous avons un invité qui, il y a quelques semaines, on peut le dire, était avec nous en studio. C'était avant les élections israéliennes.
Avant.
Avant, il s'agit de David Benishai. Et aujourd'hui, David est en Israël avec nous. Je vous laisse nous le présenter. Bon, je vais peut-être dire qu'il est quand même ancien directeur des affaires sociales au FSJU, consultant en stratégie de l'environnement auprès de plusieurs municipalités en Israël et animateur du mouvement contre Netanyahou avant les élections. David, bonjour.
Allô, allô, vous êtes là, David Benishai. Bonjour, voilà. Bonjour.
Tout à fait.
Bienvenue,
bonjour,
David,
Paul,
bien dur. Voilà.
Et Shana Tova, bien sûr.
Shana Tova.
Shana Tova, voilà. Shana Tova.
Alors, David, vous avez été un des leaders du mouvement social et politique qui a demandé le départ de l'ancien Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et vous avez obtenu gain de cause. Il est parti. Certains s'en réjouissent, d'autres le regrettent. Mais maintenant, on a un nouveau gouvernement. Et alors, comment vous jugez ce nouveau gouvernement qui vient de passer à peu près ses 100 premiers jours, qui a été mis en place par Naftali Bennett avec le soutien de Yair Lapid? Est-ce que vous trouvez qu'il tient ses promesses, David?
Oui, évidemment. On a
tient ses
un
promesses.
Gouvernement qui réunit, qui tient ses promesses, d'une part sur la méthode et sur la forme. On n'a pas un Bennett qui passe son temps à attaquer telle partie ou telle partie des citoyens. On a le sentiment qu'on a une équipe qui est au travail. Il le fait en public ou en privé, des compliments et des encouragements vis-à-vis de ses ministres. Chaque ministre est dans son domaine de compétences et il avance. Et au moins, il réouvre le dialogue sur un certain nombre de sujets qui avaient été un peu mis sous le boisseau pendant 12 ans, sur des questions sociales, sur des questions environnementales. Soit même la reprise du dialogue, pas d'un processus de paix, puisqu'il n'a pas de mandat, d'une certaine manière, Bennett, pour engager un processus de paix, mais au moins, on sent bien le changement de stratégie de ce gouvernement vis-à-vis du Hamas et vis-à-vis de l'autorité palestinienne, pour reprendre, à peine proposer, les discussions, sans pour autant parler d'État palestinien, que ce soit, mais au moins revenir à des choses triviales, des relations que doit avoir l'État d'Israël avec son partenaire le plus proche et le plus problématique. Mais voilà, ça c'est ce sentiment qu'on se remet au boulot, que tout le monde se remet au travail, dossier par dossier, avec le courage de dire, bah, là ça ne va pas, il va falloir qu'on traite ce sujet.
Mais dans
donc
quel,
oui,
dans,
le sentiment,
David,
globalement...
Dans quel domaine en particulier la gestion du pays par le gouvernement Bennett montre son efficacité et son intelligence aujourd'hui? Quels sont les domaines que vous jugeriez les plus positifs? Et puis, quelles sont ses limites, ses erreurs jusqu'à maintenant?
Écoutez, alors oui, il y a deux sujets qui sont dans la conjoncture actuelle, qui sont liés d'une certaine manière, et la question économique. Enfin, après 3 ans sans budget, vous vous rendez compte, l'État d'Israël a été géré pendant 3 ans, les 3 dernières années depuis 2018, sans budget.
Oui, c'est grave.
Il y a aujourd'hui un budget qui est passé en première lecture, qui, de toute évidence, de toute évidence, devrait à la mi-novembre être entériné. Et donc, on aura un budget pour au moins les 2 prochaines années, et les 3 prochaines années. Donc, ça, c'est fondamental. Vous comprenez, il y a le budget courant. Et puis, il y a évidemment tous les projets, toutes les initiatives, toutes les actions particulières à mener, que ce soit vis-à-vis des personnes qui sont victimes des traumas de guerre, que ce soit vis-à-vis des personnes handicapées, que ce soit vis-à-vis des survivants de la Shoah. Donc, il y a des budgets, il y a des aspects sociaux de ce budget. Et donc, il y a aujourd'hui un État avec un budget en préparation qui sera voté en troisième lecture d'ici la mi-novembre. Ça, c'est la base, c'est le fonctionnement, c'est le béaba. On ne peut pas diriger un pays sans poser les cartes sur la table en matière de budget. Donc là-dessus, il y a énormément de travail. Alors, on dirait que le côté moins satisfaisant nous concernant en tant que démocrates, c'est qu'Avigdor Lieberman a une position extrêmement puissante, puisqu'il est ministre des Finances, extrêmement puissante, donc il tient entre ses mains vraiment tout le budget de l'État.
L'argent.
Mais on va dire qu'il en utilise, il en use pas. Il en use pas, et ou du moins, il se met pas en avant là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le point sur lequel je suis un peu dubitatif sur, au moins sur l'expression de Bennett, c'est concernant la gestion du virus, du coronavirus.
Oui.
Il y a un certain nombre de sorties de la part de Bennett
la question.
Qui sont malheureuses.
Par exemple, par exemple.
Par exemple, il y a quelques semaines de ça, en pointant du doigt les gens qui ne se vaccinent pas comme étant presque des terroristes ou presque des gens qui mettent en danger la société. Il y a des propos qui sont exagérés. Il y a eu des propos ce matin encore sur les vaccins des enfants. Il y a aujourd'hui un mouvement en Israël qui s'oppose aux vaccins des enfants. Les propos qu'il a tenus étaient déplacés, pas... Voilà, il y a des maladresses dans...
David, quand vous dites les enfants, c'est quel âge ?
C'est de passer en dessous de la barre des 12 ans.
Ah, d'accord.
Donc aujourd'hui en Israël, on s'oppose à ça.
Pourquoi ? On sait pourquoi ?
En plus.
Pourquoi on s'oppose à ça ?
Écoutez, je vais une chose. Il y a un groupe minoritaire qu'on appelle les anti-vax. Moi, personnellement, j'adhère absolument pas à leur position.
Oui.
Et puis, il y a un courant, on va dire, un peu plus mainstream qui dit, écoutez, aujourd'hui, le virus touche très majoritairement les 65 plus, notamment avec des problèmes de santé supplémentaires. Les enfants ne présentent pas de symptômes. Les enfants peuvent se retrouver, certes, porteurs, mais si on protège bien les personnes à risque, il n'y a aucune raison que le reste de la population soit vaccinée. Et puis, comme Hagai Levin, par exemple, directeur d'hôpital, qui dit on a intérêt aussi à ce qu'il y ait une forme d'immunité collective naturelle. C'est-à-dire qu'on porte, qu'on transmet, certes, mais comme on a suffisamment d'anticorps, on est capable d'y faire face. Et les anticorps qu'on développe face au virus de façon naturelle sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus présents, ils sont beaucoup plus efficaces pour les variants à venir. Donc, il y a là un débat public. Alors, il existe le débat, hein, certes. Et donc, beaucoup de gens ne trouvent pas nécessaire de... Mais je ne veux pas trop m'apesantir sur ce débat. C'est un des débats. Globalement, il n'y a pas de confinement. C'est globalement, on va dire qu'on vit avec et qu'effectivement, il y a un débat au sein des ministres, au sein des différents ministères, que ce soit l'éducation face au ministère de la Santé. Et globalement, on a le sentiment que c'est bien géré. Voilà. Donc, c'est mon sentiment personnel. Voilà. Donc, ça, c'est mon sentiment. Même si le troisième vaccin, par exemple le booster, il y a deux jours, a été interdit par la FDA.
Oui, alors on a lu ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, David ?
De ce que disent les rapports, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de preuves tout à fait flagrantes que le booster puisse augmenter le niveau de défense, sauf peut-être à considérer les publics à risque, c'est-à-dire les plus de 65 ans.
Et le booster, en fait, c'est ce qu'on appelle, David, c'est ce qu'on appelle en France la troisième dose, hein, c'est ça. D'accord.
Exact, tout à fait. Bon, moi-même, je suis vacciné troisième dose, parce que je dois aller en France bientôt, etc., et je n'ai pas envie de rentrer dans les complications. Moi, ça ne me préoccupe pas plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un débat autour de est-ce que vraiment on a besoin pour toute la population en général d'un troisième vaccin, sachant que... il est recommandé par le FDA seulement pour les personnes à risque.
D'accord.
Bon, alors, il se passe beaucoup de choses en Israël et on ne va pas... voilà.
David, oui. Sur un autre plan, si vous voulez, un plan plus politique, celui qui intéresse le démocrate et l'homme de paix que vous êtes, où on en est avec la reprise du dialogue entre juifs et arabes après les émeutes pendant la dernière guerre à Gaza ? Est-ce que Bennett, il a travaillé un peu pour... il a aidé, soutenu... pour que le dialogue se reprenne entre les différentes communautés après tout ce qui s'était passé.
Oui, alors moi je vais vous répondre à un double niveau, un niveau politique et un niveau tout à fait personnel.
Oui.
À un niveau politique, il est évident que, peut-être que nos auditeurs ne comprennent pas à quel point ce gouvernement-là, au-delà du fait qu'il soit une mosaïque de partis, de la droite jusqu'à la gauche, intègre pour la première fois un parti arabe. Et pas en soutien extérieur, intègre à l'intérieur de la coalition... le parti de Mansour Abbas.
Oui, tout à fait.
Le parti Ram. Ça, c'est une révolution dans la société israélienne. Et donc, je vais vous donner une réponse aussi tout à fait subjective et personnelle. J'habite Yafo.
Oui, il s'est passé des choses là-bas.
Plusieurs années.
Oui.
Et chaque Kippour, au moment où on est dans le recueillement, les gosses sont dans la rue en train de faire du vélo, chaque année à Kippour, c'était des voitures qui fonçaient, des scooters qui faisaient un bruit pas possible, des pétarades. Cette année, le silence. Les gens étaient dans la rue, les familles se retrouvaient dans la rue. Alors, les familles musulmanes qui ne font pas Kippour se retrouvaient en grand comité, dehors, à se retrouver en famille, etc. Un sentiment d'apaisement. Et je crois que la participation, symboliquement, dans la société israélienne, la participation d'un parti arabe à l'intérieur du gouvernement, vraiment, passe en soutien extérieur, est quelque chose qui a donné un signal dans, je dirais, la reprise du vivre ensemble après ces émeutes qui ont été extrêmement douloureuses de part et d'autre.
Eh bien, voilà. C'est ce qu'on maintenant peut souhaiter. David, vous venez de nous dire que vous veniez bientôt en France. Je crois que le son sera bien meilleur en studio. Donc voilà, on se fera un plaisir de vous recevoir. Et en tous les cas, Chag Sameach encore une fois. Et merci d'avoir été avec nous ce matin.
Shana Tova.
Shana Tova, au revoir.
À bientôt, David. Et bonne semaine à tous et à toutes.